Le magazine des Nations Unies.
Bon dimanche chez vous et bienvenue dans cette émission dont voici le sommaire. Mais 214 cas de violation des droits de l'homme enregistrés de janvier à juin 2014 pour un peu plus de 4000 victimes sur l'ensemble du territoire congolais. C'est le constat du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le BCNUDH constate en même temps un engagement de plus en plus sérieux de la part des autorités congolaises pour faire face à ces violations des droits de l'homme. C'est notre actualité de la semaine. Et puis 5323 enfants scolarisés dans la capitale congolaise par Caritas au cours de l'année scolaire passée. C'est le résultat de l'évaluation faite par cette ONG avec ses partenaires à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse célébrées le mercredi 23 juillet dernier. Les détails tout à l'heure avec l'invité de ce dimanche. Enfin, le pôle protection des agences des Nations Unies en province orientale veut renforcer les capacités des autorités civiles et militaires de Ahou. C'est une cité stratégique à la frontière de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Les détails dans cette édition.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Je vous le disais en titre, selon un rapport du BCNUDH rendu public mercredi dernier, un peu plus de 4000 victimes des violations des droits de l'homme ont été répertoriées au cours du premier semestre de l'année en cours. Si le nombre des violations a baissé par rapport au semestre précédent, celui des victimes a, lui, augmenté, a déclaré le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Monsieur Scott Campbell parle ici des types de violations commises, de leur répartition géographique et de leurs auteurs.
Les types de violations des droits de l'homme les plus documentés, il s'agit globalement des atteintes aux droits à l'intégrité physique, donc les cas de torture, les cas de violence sexuelle, les atteintes aux droits à la liberté et sécurité de la personne, principalement les cas d'arrestation arbitraire ou des enlèvements par les groupes armés, les atteintes aux droits à la propriété, les cas d'extorsion, de pillage, etc. Et là, on voit le plus grand nombre de victimes. Nous avons documenté plus de 1300 victimes de ce droit à la propriété. Et finalement, des atteintes au droit à la vie, qui est bien sûr le droit le plus fondamental. Sur le plan géographique, ce que nous pouvons retenir, c'est que les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Oriental sont les provinces où on a enregistré le plus de violations des droits de l'homme pendant ces premiers 6 mois de 2014. À peu près 75% des victimes dans ces 3 provinces affectés par le conflit. En ce qui concerne la responsabilité, nous avons une responsabilité partagée entre les agents étatiques et les groupes armés. Nous avons à peu près 49% du nombre total de victimes enregistrées pour la période sous examen qui sont attribuables aux agents étatiques.
Toujours dans le même rapport, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme se félicite de la volonté affichée par les autorités de la RDC dans la lutte contre ces violations des droits de l'homme. Écoutons encore à ce sujet Scott Campbell.
Face à cette situation globale, les autorités nationales ont pris des actions très importantes à noter et c'est une augmentation de l'activité judiciaire concernant ces violations des droits de l'homme par rapport à la période de juillet à décembre de l'année passée. Pendant les derniers 6 mois, nous avons enregistré 124 personnes condamnées pour les crimes constituant les violations des droits de l'homme dans tout le territoire de la RDC. Ce n'est pas exhaustif, mais je noterai en plus que dans la province de Nord Kivu, 56 personnes auraient été condamnées pour des crimes constituant des violations des droits de l'homme, ce qui représente une augmentation significative de l'activité judiciaire dans cette province depuis la défaite du mouvement de M23. Il est capital de reconnaître ces efforts qui sont faits pour faire face à une situation, évidemment, qui demeure sérieuse. Une autre initiative très importante qui a eu lieu pendant ces 6 mois, par, encore une fois, le ministère de Justice et Droits de l'Homme, en tête le vice-ministre des Droits humains, avec la police nationale et la police des Nations Unies, qui ont procédé à des visites des lieux de détention de la ville de Kinshasa. Au cours du mois de mai, ces visites ont eu pour but d'évaluer les procédures d'arrestation et les conditions de détention dans les différents centres de détention de la ville de Kinshasa.
C'était là un dossier réalisé pour vous par Honoré Missenga Kalala.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Un projet d'appui au système de la justice pour enfants a été lancé jeudi dernier à Kinshasa. Ce projet sera exécuté par l'ONG War Child en partenariat avec le gouvernement congolais, la société civile et l'appui technique et financier de l'UNICEF. Justina Edgman, elle est la chef des programmes de War Child à Kinshasa. Elle apporte un éclairage sur la mission de son ONG et les objectifs du projet. Elle s'est entretenue avec Honoré Missenga Kalala.
Justina Edgman, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la mission de War Child ici à Kinshasa?
War Child est une organisation non gouvernementale fondée en 1993 qui s'engage à protéger les enfants présents dans les zones de guerre les plus dangereuses. Donc, nous sommes présentes en RDC depuis 2003 à Goma et à Kinshasa depuis 2010. Notre mission, c'est d'offrir aux enfants des états fragiles un accès à des moyens de subsistance et à la protection et de renforcer le respect de la droit portant protection de l'enfant en RDC.
Justement, vous venez de lancer aujourd'hui un projet d'appui au système de la justice pour enfants à Kinshasa. Est-ce qu'on peut connaître en quoi consiste ce projet?
L'objectif global de ce projet, c'est de contribuer au renforcement du système de justice pour enfants dans la ville province de Kinshasa. Donc, nos objectifs spécifiques, ce sont de réduire le nombre de cas de détention parmi les enfants en conflit avec la loi qui sont actuellement dans la prison centrale de Kinshasa, Makala, mais aussi d'améliorer l'accompagnement des enfants en conflit avec la loi, dans le but de permettre leur réinsertion socio-économique et familiale. Nous espérons que ce projet, mené en partenariat avec l'UNICEF, mais aussi avec les partenaires étatiques, nous permettra de réduire l'affluence des enfants en détention, mais aussi d'améliorer les conditions de vie des enfants qui sont toujours dans la prison en renforçant les cadres dans la prison et dans les centres alternatifs à la détention des enfants, mais aussi de créer les opportunités pour les enfants d'acquérir les compétences pour qu'ils soient réinsérés durablement dans leur communauté.
Alors, quelle est la durée du projet?
C'est un projet de 7 mois.
Les cibles que vous avez choisies?
Il y en a plusieurs. On va travailler avec les enfants, pour les enfants, qui sont en conflit avec la loi, qui sont placés dans des structures alternatives à la détention, mais aussi avec les enfants qui sont toujours au pavillon 9 et 10, qui vont participer aux activités éducatives, récréatives et qui, nous espérons, avec l'aide des assistants sociaux, seront écoutés et accompagnés individuellement. Nous avons aussi pour le but de travailler avec les juges, les assistants sociaux, les membres des comités des médiations, les avocats pour améliorer leurs compétences dans les thèmes différents qui sont pertinents dans le domaine de la justice pour enfants, mais aussi, nous espérons, renforcer la division de genre famille et enfants et les partenaires étatiques comme la division des affaires sociales, la division de la justice et les appuyer pour effectuer le suivi des enfants et le suivi aussi des mécanismes extrajudiciaires comme les comités de médiation qui seront renforcés dans le cadre de ce projet. Finalement, nous espérons que les structures d'accueil pour les enfants en conflit avec la loi en rupture familiale seront renforcées grâce à ce projet, aussi les familles d'accueil transitoire.
Le projet ne concerne que la ville de Kinshasa. Est-ce que vous n'entendez pas l'étendre à d'autres provinces de la RDC?
Comme j'ai dit au début, Watch Educate est présent à Goma et à Kinshasa. Donc ce sont les deux endroits en RDC où on intervient. Mais tout à fait, on voudrait mener un tel projet aussi pour les enfants qui sont à Goma.
Oui, votre ONG en RDC depuis 2003, vous l'avez dit. Est-ce qu'en dehors de ce projet, vous pouvez nous donner quelques autres projets que vous avez déjà réalisés?
Oui, en termes de Kinshasa, on est en train de mener un projet qui est consacré au soutien pour les filles de la rue à Tchangou. On le mène en partenariat avec l'OCPR. Ce projet a pour but de faciliter la réinsertion socio-économique et familiale des filles de la rue. L'autre projet qu'on est en train de mener en partenariat avec la division des affaires sociales, le tribunal pour enfants de Kinkole et le parlement des jeunes ici à Kinshasa, c'est un projet avec le soutien de l'Union européenne. C'est lutte contre la violence envers les enfants, dans le cadre duquel on a lancé déjà la ligne d'assistance téléphonique pour les enfants en détresse et dans le cadre duquel on travaille avec la communauté par rapport à la sensibilisation de la communauté et le renforcement de respect des droits des enfants.
Oui, vous parlez d'une ligne téléphonique. C'est quoi cette ligne? Comment on peut l'utiliser?
Cette ligne a pour but de orienter les enfants qui sont en détresse à travers les assistants sociaux, les structures d'accueil pour les enfants en détresse. Donc nous espérons que dans l'avenir, chaque enfant qui est en détresse en RDC sera capable d'appeler cette ligne pour demander l'aide, pour être mieux orienté, pour être référé en cas danger, pour être référé vers les structures appropriées, les structures de la prise en charge. Dans ce cadre-là, on travaille avec les RECOPE et les assistants sociaux pour s'assurer de la prise en charge des enfants, le bon référencement aux structures appropriées ou la réinsertion familiale. L'autre but de ce projet, c'est de s'assurer de bonne compréhension de la loi portant protection de l'enfant en RDC. Donc nous espérons que ça sera aussi un outil pour les parents qui veulent se renseigner par rapport aux droits des enfants et qui peuvent appeler pour savoir. On est très content d'être là. On a vu plein de partenaires qui sont actifs dans ce domaine. Je pense que ce projet va renforcer les synergies existantes et que notre point fort, c'est qu'on peut toujours travailler en étroite collaboration avec les acteurs qui sont déjà très actifs et expérimentés dans le domaine de la justice pour enfants, pour le bien-être des enfants en RDC.
Justina Eman, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Et pour les nouvelles, en bref, le rapatriement des réfugiés angolais encore présents à Dilolo, au Katanga, aura lieu en septembre prochain. Le représentant de la Commission nationale des réfugiés, le CNR, l'a affirmé lundi dernier à l'occasion de la clôture de la campagne d'identification de ces réfugiés angolais qui vivent dans ce territoire congolais à plus de 700 km de Lubumbashi. Une délégation mixte CNR-HCR a mené cette campagne pendant 3 jours, mais cette délégation n'a pas communiqué le chiffre de ces Angolais identifiés, dont certains ont exprimé le désir de rentrer dans leur pays. Restons dans ce cadre pour dire que l'opération d'évacuation des rebelles rwandais des FDLR, prévue jeudi dernier à Walungu, au sud Kivu, vers un site de Kisangani, n'a plus lieu. Selon nos sources sur place, le premier groupe de combattants destiné à cette opération dit attendre le feu vert de leur hiérarchie. Les officiels de la MONUSCO parlent d'un statu quo dans cette opération. Les ex-combattants rwandais exigent la visite sur le site avant toute évacuation vers Kisangani. Rendons-nous à présent à Mahagi, en province orientale, pour parler de l'inauguration mardi dernier d'un centre de santé construit à Pandoudou par la MONUSCO. La localité de Pandoudou est à plus ou moins 10 km à l'est de Mahagi. C'est le 6e bataillon des casques bleus bangladais qui a financé ce projet à hauteur de 25 000 dollars américains. Ce centre de santé rendra service à environ 16 000 habitants de la localité. Parlons sécurité aéroportuaire. Pour finir, 2 véhicules anti-incendie et une ambulance ont été remis mardi dernier à l'aéroport de Goma, au Nord Kivu, par la MONUSCO. La mission de l'ONU a aussi formé 30 sapeurs-pompiers de la RVA et de la protection civile du gouvernorat. La MONUSCO les prendra en charge pendant 2 ans.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
5323 enfants scolarisés par la Caritas à Kinshasa au cours de l'année scolaire 2013-2014. C'est le résultat de l'évaluation faite jeudi dernier dans la capitale par la Caritas Congo et tous les partenaires de l'éducation. Cette évaluation entre dans le cadre de la célébration des journées mondiales de la jeunesse le 23 juillet de chaque année. Mundia Gracien, coordonnateur des urgences et protections sociales à Caritas Congo à Kinshasa, est notre invité ce dimanche. Il nous parle justement de l'implication de son organisation dans l'encadrement de la jeunesse et surtout des enfants vulnérables, ainsi que des actions menées dans ce domaine et du partenariat entre Caritas Congo et d'autres agences humanitaires. Suivez son entretien avec Jean-Pierre Elali Coco.
Mundia Gracien, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes coordonnateur des urgences et protection sociale Caritas et à Kinshasa. Alors, nous allons commencer par une question d'actualité. Caritas a présenté aujourd'hui même, c'est jeudi, une évaluation sur la scolarité. Et dites-nous un mot concernant cette évaluation.
Oui, au fait, le domaine de la scolarisation des enfants est un domaine qui nous concerne énormément parce que nous travaillons là-dessus depuis plusieurs années et nous avons voulu, à la fin de cette année scolaire qui vient de se terminer, de voir un peu comment elle a commencé et comment, quels sont les éléments que nous pouvons tirer comme leçons pour l'année qui commence. Là-dessus, nous avons réuni tous les partenaires de l'EPSP, les acteurs communautaires, pour voir ce qui s'est passé réellement. Nous avons, au bout de l'année scolaire, scolarisé pratiquement 5323 enfants vulnérables simplement pour la ville-province de Kinshasa.
Combien ?
5323 enfants vulnérables. Et je voudrais vous signaler aussi que nous venons de permettre à 36 enfants d'obtenir les diplômes d'État tout récemment.
Et donc il faut préciser que ce sont des enfants vulnérables, comme vous l'avez dit.
Ce sont vraiment des enfants vulnérables parce que nous tenons à cette catégorie d'enfants.
Et qu'est-ce que vous entendez par enfants vulnérables ?
La définition des enfants vulnérables, selon nous, c'est ces enfants-là qui sont dépourvus des moyens pour faire face aux services sociaux de base, entendu la santé, l'éducation et ainsi de suite.
C'est très bien. On sait que l'Église catholique et Caritas et Congo sont très engagés dans la cause et même dans les activités en faveur de la jeunesse. Qu'est-ce qui motive votre engagement pour la jeunesse, M. Gratien ?
Nul n'ignore que la jeunesse, c'est l'avenir de demain et nous ne restons pas en marche parce que nous disons non seulement l'avenir de demain, mais nous précisons c'est l'avenir de ce monde, l'avenir de ce pays. Et on peut même ajouter aussi c'est l'avenir de l'Église. Et donc tous, nous travaillons pour la promotion intégrale de l'homme et l'homme, c'est aussi cette jeunesse, ce jeune-là qui a besoin aussi d'un avenir meilleur.
On a vu également cet engagement dans l'assistance apportée par Caritas et ses partenaires aux jeunes refoulés des Brazzaville, c'était à Maluku, avec bien sûr la participation de la MONUSCO. Comment Caritas organise-t-elle les activités d'aide d'urgence aux vulnérables, par exemple ?
Oui, en fait, lorsque une urgence humanitaire intervient, nous procédons par l'évaluation de la situation, ce que nous appelons évaluation initiale, qui nous permet d'élaborer des projets pour mobiliser des ressources financières. Et lorsque nous avons ces ressources-là, nous travaillons avec les partenaires étatiques, notamment pour les cas d'urgence, les ministères des Affaires sociales, et évidemment avec les concernés dans la réponse que nous leur apportons après avoir mobilisé les fonds, soit au niveau du réseau Caritas de par le monde ou au niveau d'autres bailleurs que nous connaissons.
Gracière, je voudrais que nous puissions être beaucoup plus pratiques. Prenons les cas de l'assistance aux réfugiés de Brazzaville à Maluku. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement et d'où sont venues ces ressources dont vous parlez tout à l'heure?
Effectivement, nous avons eu à faire une mission interagence. Donc, quand je parle de mission interagence, avec les agences des Nations Unies
qui sont installées ici à Kinshasa.
Évidemment, avec d'autres ONG internationales et nationales. Et au bout de cette évaluation, nous avons formulé le projet que nous avons envoyé au niveau du réseau Caritas de par le monde. Et nous avons bénéficié de l'appui financier de Caritas Belgique, de Cordaid, de CRS, qui est la Caritas américaine, et de Caritas Allemagne, et c'est de CAFOD aussi. Et c'est avec ce fonds-là collecté au niveau du réseau mondial Caritas que nous avons su apporter de l'aide à nos frères qui ont été refoulés de Brazzaville.
Et quelle a été vraiment la nature de cette aide? Concrètement, c'était quoi?
Elle a consisté en vivre et en non-vivre.
C'est
donc, nous avons donné des haricots, du riz, du sel, nous avons donné de l'huile, nous avons donné des boîtes de conserve.
Et pour les non-vivres?
Pour les non-vivres, nous avons donné des couvertures, vous comprenez, c'est la saison sèche, des habits, parce qu'ils étaient parfois expulsés sans qu'ils reviennent avec quelque chose. Nous avons donné des kits hygiéniques pour les femmes et surtout les jeunes filles, des seaux, des marmites, des ustensiles, plein de savons, de toilettes, de savons de vaisselle et tout ce que vous pouvez imaginer.
Alors, au Mundia Gratien, à vous entendre parler, on dirait que l'action que Caritas mène, il ne la mène pas seul, il a besoin d'un certain partenariat. Parlez-nous un tout petit peu de la collaboration Caritas Congo, organisation humanitaire et surtout l'UNICEF dans le secteur de la jeunesse. Comment cela se passe?
Je voudrais souligner que l'UNICEF, c'est un de nos grands partenaires par rapport à la réponse que nous apportons à tout ce monde qui a besoin de notre intervention. Nous travaillons avec l'UNICEF dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'éducation aussi. Et par rapport à la protection, nous avons eu à travailler pour nous apporter une réponse aux orphelins et enfants vulnérables. Et là-dessus, je voudrais vous dire que nous avons eu même à atteindre le pic à Kinshasa de scolarisation, près de 12 000 enfants, gratuitement.
En cette année ou bien c'est...
Non, à 2012, excusez-moi, que nous avons atteint ce pic-là. Maintenant aussi, les stratégies sont en train de changer. Et donc, pour l'instant, nous travaillons avec l'UNICEF et les associations féminines pour arriver à responsabiliser la communauté par rapport à la question de l'éducation de l'enfant et surtout de l'enfant en dehors du système scolaire.
Oui, vous parlez de l'éducation de l'enfant, vous parlez aussi des enfants vulnérables. Quel quelques réalisations de Caritas et Congo ici à Kinshasa pour l'encadrement de ces jeunes, des orphelins, et même vous avez parlé des enfants vulnérables en général.
Oui. Laissez-moi vous dire que nous avons pu faire l'identification et l'inscription de 4929 enfants en dehors du système scolaire avec l'appui de l'UNICEF. Et ces enfants-là ont pu étudier l'année passée. Et ce sont des enfants qui sont entre 6 et 7 ans.
Ça, c'est dans le domaine scolaire.
C'est dans le domaine scolaire. Mmh. Nous avons pu construire 5 écoles primaires.
Ici à Kinshasa.
Oui, pour améliorer l'apprentissage des enfants. Par rapport à la jeunesse, nous avons pu mettre en place, par exemple, à Kingabwa, 4 espaces ludiques pour permettre aux jeunes d'avoir des endroits où ils peuvent aller se distraire, mais dans la saine distraction, où on peut aussi leur apporter un message par rapport à leur responsabilisation.
Et justement, vous parlez du message, et nous savons que cette journée est consacrée justement à la jeunesse. Est-ce que vous avez un message à la jeunesse congolaise en général et aux jeunes vulnérables en particulier? Est-ce que vous avez un message à leur transmettre?
Oui, avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais aussi dire que chaque année, nous organisons des colonies de vacances pour les jeunes, et surtout pour les jeunes vulnérables, les enfants vulnérables, les enfants vivant avec handicap, les enfants affectés par le VIH, et chaque année, nous organisons cette colonie pour près de 2000 enfants en Gilles-Brasserie. Et pour revenir au message par rapport à cette journée, le message, c'est ce message-là d'espoir pour les enfants. Malgré leur situation, ils doivent garder l'espoir à l'avenir. Ce n'est pas ce qu'ils sont aujourd'hui qui seront demain. Aujourd'hui, ça peut être la souffrance, demain, ça sera une autre réalité. Il faut qu'ils construisent eux-mêmes leur avenir. La vie, c'est un combat, et il faut se battre pour bien s'en sortir.
Monsieur Gratien, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et pour les nouvelles des provinces, le pool protection des agences des Nations Unies en province orientale a organisé du 18 au 19 juillet dernier une formation à l'intention des autorités civiles et militaires ainsi que la société civile du territoire d'Arou. Ce territoire est situé à 300 km au nord de Bunia, à la frontière avec l'Ouganda. Quelle est l'importance de cette activité et pourquoi avoir choisi Arou? Le chef du bureau intérimaire du HCR en province orientale, Pacom Gomé, répond au micro de José Deschartes.
Je conduis une délégation du cluster protection composée de l'ensemble des acteurs de protection qui interviennent ici en province orientale, notamment basée à Bunia. Nous sommes venus à Arou dans le cadre tout justement des activités du cluster protection, notamment celles liées au renforcement des capacités des différents acteurs étatiques, civils et militaires, de la société civile, ainsi que des ONG œuvrant dans le domaine des droits de l'homme. Nous avons organisé une formation de renforcement des capacités à l'intention tout justement des acteurs que je venais d'énumérer sur la problématique de la protection des civils. Nous avons abordé différents thèmes relatifs à la protection des civils, partant des notions sur la protection en général, sur les notions sur les violences sexuelles, les principes humanitaires, la protection de l'enfant, le genre et d'autres thèmes relatifs tout justement aux droits de l'homme. Le choix de la localité d'Arou est motivé par deux facteurs au moins. Le premier, c'est que Arou abrite sur son territoire une diversité de catégories de population, parmi lesquelles des déplacés internes, les retournés, dont les mouvements ont été enregistrés à la suite des conflits armés et de la présence de quelques éléments négatifs dans la contrée. Mmh. Arou abrite également des réfugiés en provenance de l'Ouganda, mais également du Sud-Soudan. Donc la présence de ces catégories de personnes justifie tout justement que nous puissions travailler en étroite collaboration avec les autorités locales pour améliorer le mécanisme de protection de ces populations. Il faut aussi dire que Arou, sur le plan géographique, a une position stratégique, en ce sens que c'est un territoire qui est frontalier à deux pays, l'Ouganda et le Sud-Soudan, et vous savez vous-même que la situation, par exemple, au Sud-Soudan est assez difficile en ce moment, et que cette situation pourrait avoir un impact humanitaire sur le territoire d'Arou.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question de ce dimanche nous vient de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Elle porte sur la prise en charge des déplacés de Walikale. La réponse est donnée par Sylvestre Ntumba Mudingayi. Il est chargé de communication à Ocha. Suivez.
Que prévoient les humanitaires aux familles déplacées dans le Walikale Sud, plus précisément à Omo et Pinga? Et pourtant, il y avait un montant colossal alloué pour le territoire de Walikale et Masisi. Nous ne sentons pas la présence des humanitaires sur le terrain. Merci.
Par rapport à cette question, c'est que prévoient les humanitaires par rapport aux déplacements récents dans Walikale? Notre assistance, vous le savez, elle porte essentiellement sur la sécurité alimentaire, les abris, l'assistance médicale et les articles ménagers essentiels. Dernièrement, on vous a informé d'une mise à disposition d'une allocation du Fonds commun humanitaire pour le Nord Kivu, à la hauteur de 3 200 000 $, essentiellement destiné à l'assistance aux personnes déplacées. La cagnotte a été débloquée, les projets sont en train d'être présentés et ils seront incessamment mis en œuvre pour répondre aux besoins de toutes ces personnes déplacées.
Magazine des Nations Unies, portrait d'usine.
Je m'appelle Bosdawende Ouda Nembamogo. Je suis mère de deux enfants, donc mariée évidemment. Actuellement, je suis au niveau de l'unité technique de Radio Okapi. Donc, moi, je suis le responsable du service informatique et depuis décembre, je suis en charge de l'unité technique comme intérimaire. Mes temps libres, je regarde la télé, je pars à l'église pour prier parce que je suis une chrétienne pratiquante. Donc, c'est ce que je fais de mes temps libres. Comme divertissement, j'aime écouter la musique chrétienne. Je regarde aussi quelques feuilletons, les news, essayer de savoir ce qui se passe dans le monde. Les agents religieux, je préfère ne pas entonner pour ne pas me tromper parce que c'est beaucoup plus en lingala. Je préfère m'en passer vraiment, mais sinon je les adore. Les perspectives d'avenir, j'ai plein de projets pour l'avenir que je préfère ne pas dévoiler. L'avenir nous le dira. J'ai fait des études primaires à Yako. Yako, c'est un village du Burkina Faso. Donc, c'est l'école Yako Mix du Burkina. Je les ai fait là-bas. Où ça a été sanctionné par le certificat d'études primaires au bout de 6 ans. Et les études secondaires, je les ai fait toujours au Burkina Faso, précisément à Yako, pour le premier cycle. Je l'ai fait au lycée provincial de Yako, c'est un établissement public, où ça a été sanctionné par le BPC. Le BPC, ça veut dire brevet d'études du premier cycle. Donc, après le BPC, je me suis déportée à Ouagadougou, qui est la capitale du Burkina Faso, où j'ai fait une partie de mes études secondaires au collège protestant de Ouagadougou, et ensuite au CEFIG. CEFIG, c'est Centre d'études et de formation en informatique de gestion. À la fin de mes études au CEFIG, j'ai eu le BPI, qui est le BEP informatique, et un bac H, qui est un bac, le H pour dire informatique, le baccalauréat informatique. Bon, ensuite, les études universitaires, je les ai effectuées à l'ISIG, l'Institut supérieur d'informatique de gestion, à Ouagadougou toujours, qui est devenu aujourd'hui Université Aube Nouvelle. J'ai obtenu au bout de la deuxième année 1 d'EIT, diplôme universitaire de technologie, et ensuite j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur de travaux informatiques équivalent à la licence, si on veut parler globalement. Avant de venir à la MONUSCO, j'ai eu à travailler dans mon pays, beaucoup de stages à la BCAO, Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, où j'ai eu à développer une application pour la gestion des frais médicaux de la BCAO. Ensuite, je suis allée à la SGBB pour la troisième année. Et ensuite, il y a une société où je suis passée, qui n'existe pas aujourd'hui, qui s'appelle IT Consult. Là-bas, j'ai fait quand même 6 mois de stage où j'ai développé un groupe pour sous-gérer Linux qui permet une collaboration dans les entreprises. Et par la suite, j'ai travaillé à Hugotech, une société d'informatique toujours, avant de m'envoler pour Guinée-Bissau, où je travaille avec le PAM. Donc, j'ai fait une année au sein du PAM avant de venir à la MONUSCO. Je vous remercie.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC,
chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Notez ces rendez-vous dans votre agenda de la semaine. Ce lundi, le monde célèbre la journée contre l'hépatite, une journée consacrée le 28 juillet de chaque année. Autre rendez-vous mondial du 30 au 31 juillet se tiendra à Yamoussoukro, nous sommes en Côte d'Ivoire, le deuxième forum international des ONG sur l'accès à l'eau pour tous en Afrique, un forum qui se tient en partenariat avec la MONUSCO. C'est par ici que nous bouclons cette émission présentée toujours avec plaisir par Lydie Bettina sous la supervision de Nicole Ngaka et la coordination de Jean-Pierre Elali Ikoko. Honoré Missenga était au reportage et Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. L'émission est à réécouter sur le www.radiookapi.net. Merci de votre fidélité et à dimanche prochain.